plus de puissance.
Oui, monsieur.
Mesdames, messieurs.
Je suis une voix.
Je vais à la rencontre de la nature.
Je suis le sillon à suspense.
On peut se demander qui de l'homme ou de la nature est musicien.
J'ai utilisé des sons d'animaux pour créer des rythmes.
France Culture, l'électro naturel, Étienne Menu.
Avec un ensemble d'instruments électroniques et avec le sourire.
Bonjour à tous, c'est le quatrième épisode de notre série musicale d'été consacrée aux musiques électroniques et à la rencontre de la vie et du vivant. Aujourd'hui, nous allons explorer l'idée selon laquelle des esprits habiteraient les consoles de mixage ou les boîtes à rythme, mais aussi revenir sur les détournements dont tous ces appareils font l'objet par celles et ceux qui s'en servent. Je vous propose donc de découvrir ensemble la vie secrète des machines.
Number 9, number 9, number 9, number 9. Number 9, 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 number 9.
Composé par John Lennon et Yoko Ono, Revolution 9 des Beatles est en 1968 l'un des premiers morceaux de l'histoire pop dont les instruments principaux ne sont pas la batterie, la guitare ou la basse, mais les bandes magnétiques qui les enregistrent. Des bandes ici fragmentées, remontées, répétées, passées à l'envers. De la part des Beatles, le geste était moderniste, il radicalisait le psychédélisme de Sgt. Pepper en s'attaquant au support même de la musique enregistrée et en renversant du même coup l'ordre établi de la forme chanson. As time went by, they'd get a little bit older and a little bit slower. Les Beatles et avec eux bien d'autres artistes ont tenté depuis des décennies de rendre vivant et fertile leur rapport à l'enregistrement et à la post-production. En les détournant de leur fonctionnement initial, en provoquant l'erreur, en cultivant le mésusage, ils se sont émancipés des limites imposées par le mode d'emploi. Un geste qui parfois s'accompagne d'un vieux fantasme, celui d'une âme qui peuplerait les machines. Certains imaginent des fantômes qui hanteraient les circuits et les ondes, d'autres se laissent envoûter par les sons inhumains qu'ils entendent jaillir de leurs baffles, d'autres spéculent encore sur ce que capteraient en secret les microphones ou décident de jouer des bandes à l'envers pour y découvrir des messages macabres, comme le disait d'ailleurs la rumeur au sujet du Number 9 qu'on entend dans le morceau des Beatles.
Number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9.
Ce quatrième épisode fera donc des allers-retours entre les pouvoirs surnaturels des machines et les actes de sabotage constructifs qui ont marqué l'histoire des musiques électroniques. Nous écouterons en vrac des ectoplasmes jamaïcains, des Larsen de Sheffield, des bugs digitaux allemands et du rap texan embourbé à 40 BPM. Bienvenue dans un monde de dérèglement, de spectre et de destruction des standards. Un an avant la sortie de Revolution 9, un compatriote des Beatles s'est retrouvé mort dans son appartement londonien. Il s'appelait Joe Meek et s'est tiré une balle dans la tête après avoir assassiné sa logeuse, dont il était persuadé qu'elle espionnait ses conversations par le conduit de la cheminée. Il se trouve que cet homme, souffrant de schizophrénie, entretenait un rapport pour le moins intime aux technologies sonores, puisqu'il avait de son vivant été un producteur pop très demandé. Le milieu musical britannique connaissait bien son obsession pour les micros, les tables de mixage, les chambres d'écho et autres boîtiers d'effets. Des appareils qui, pour lui, étaient bien plus que de simples auxiliaires de création et qu'il pensait capables de communiquer entre eux, voire de lui permettre de contrôler l'esprit d'autres individus. Fasciné par l'au-delà, Joe Meek avait plusieurs fois laissé son magnétophone tourner dans un cimetière dans l'espoir d'y entendre des voix d'outre-tombe. Nous écoutons ici son hit le plus célèbre, produit en 62 pour le groupe The Tornadoes. Il s'agit de Telstar, du nom d'un satellite envoyé dans l'espace la même année. C'est là l'un des rares tubes instrumentaux de l'histoire des charts, mais il ne fera pas la fortune de Joe Meek puisqu'un compositeur français, Jean Ledru, l'accusera en 1963 d'avoir plagié l'une de ses compositions écrites pour la bande originale d'Austerlitz d'Abel Gance. Une accusation proprement abusive puisque plusieurs notes diffèrent d'une mélodie à l'autre, mais aussi parce que le film ne sortira en Angleterre qu'en 1965. Meek sera d'ailleurs finalement blanchi, mais de façon posthume. Et forcément, l'affaire n'avait pas dû adoucir ses tendances paranoïaques, ni sa croyance en des mondes parallèles. Waited all night outside your home, but I can't get through to you. I told your dad I wanted the time to date you, baby, every night. He told me I could make you mine, but I can't get through to you. Si Joe Meek délirait sans doute un peu sur les pouvoirs secrets de ces machines, il en était néanmoins un utilisateur avant-gardiste. Dès la fin des années 50, il fut un pionnier en matière d'effets comme l'écho et la réverb, et fut aussi l'un des premiers ingénieurs du son à maîtriser l'overdubbing, une pratique qui consiste, pour le dire rapidement, à empiler plusieurs couches de sons afin d'enrichir la matière audible et de fabriquer, d'une certaine façon, des sons à personnalité multiple. Cette approche out of the box des méthodes en vigueur fit de lui le premier producteur pop à envisager le studio comme un instrument à part entière et non comme un moyen de retranscrire une performance réelle. Une façon d'humaniser ou du moins d'animer les machines qui donnera des résultats saisissants, souvent futuristes, où une chanson un peu banale prend soudain vie grâce à un effet, un jeu sur les fréquences, une mise en son contre-intuitive. Ainsi, sur ce titre de 1965, pour le groupe des Honeycombs, formation au départ assez propre sur elle, que Joe Meek transforma avec 15 ans d'avance en de véritables terreurs électropunk. Thank you. S'il n'a jamais cherché à prendre la place des starlettes qu'il produisait, Joe Meek a tout de même enregistré seul un album essentiellement instrumental, I Hear a New World, qui ne sera exhumé qu'en 1991. Un disque fascinant, entièrement tourné vers le fantasme d'un monde nouveau, ou du moins d'un monde autre, accessible par la magie du son, conçu comme une sorte de relais occulte vers l'inconnu. Clavier électronique, son réel transformé, ambiance exotique ou SF, cette pop spatiale faisait à la fois rêver et cauchemarder et croyait très fort au dialogue avec les extraterrestres. Sur l'une des plages de I Hear a New World, on entend donc cette chansonnette interprétée par des aliens appelés les Globots et qui sont accompagnés de percussions saturées d'effets qui évoquent involontairement une musique qui émergera un peu plus tard de l'autre côté de l'Atlantique, en Jamaïque.
Calling the meek and the humble, welcome to Blackboard Jungle. So don't you fumble, just be humble.
À Kingston, au début des années 70, un producteur lui aussi adepte de paranormal s'agite derrière sa console de mixage. C'est un garçon barbu du nom de Lee Perry qui, dans son studio, procède à des expériences technico-mystiques. On dit qu'il enterre parfois ses bandes pour les fertiliser ou qu'il les enfume des vapeurs de la ganja qu'il consomme sans modération. Au-delà de ces petits rituels, Lee Perry, qu'on surnomme Lee Scratch Perry, croit comme Joe Meek que ces machines lui permettent d'entrer en contact avec des existences cachées. Ou plutôt, il envisage l'action même d'enregistrer, de mélanger les pistes, les faire aller et venir, d'y ajouter des effets, d'abuser de la stéréo, comme une sorcellerie pouvant faire surgir des êtres immatériels, jusqu'ici inaudibles, car feuilletés entre les strates du réel. Jusqu'au début des années 70, Perry produisait de façon moins expérimentale et se contentait de fabriquer avec ses interprètes de simples morceaux de reggae. Ce n'est qu'au bout de 10 ans de carrière que le producteur a connu une révélation en découvrant l'art du dub, un genre musical né d'un accident et dont il va devenir, l'un des visionnaires. L'origine du dub compte parmi les mythes fondateurs de la musique jamaïcaine et de la musique électronique. Un jour de 1967, l'ingénieur du son Byron Smith s'occupe de presser un exemplaire unique d'un morceau qui doit sortir prochainement, On the Beach, par le groupe The Paragons. Ce disque monocopie, appelé dub ou dubplate dans le jargon, est une commande de Roddy Redwood, le responsable d'un sound system local. Celui-ci a déjà entendu une maquette de la chanson et voudrait donc la jouer en exclusivité à sa prochaine soirée. Cette pratique de produire des dubs ou dubplate est assez courante dans le milieu du reggae. Le terme dub ne désigne donc pas encore un genre musical, mais un simple disque test. Sauf qu'en lançant la gravure des pistes sur le vinyle, Byron Smith oublie d'y inclure la piste vocale. Mais Roddy Redwood ne se fâche pas, il écoute le résultat et se dit que cette version instrumentale pourrait bien plaire à son public. Il récupère donc la dubplate muette, puis la dubplate parlante entre guillemets que l'ingénieur du son va lui presser ensuite, et s'aperçoit, une fois la fête venue, que les danseurs apprécient beaucoup d'entendre cette version instrumentale après la version chantée. L'oubli de Byron Smith tient donc finalement de l'erreur vertueuse, puisque l'absence de voix donne envie aux gens de chanter eux-mêmes et les fait donc interagir autrement avec la composition diffusée, et notamment avec ces parties rythmiques qu'ils éprouvent plus distinctement maintenant que le chanteur n'est plus là.
France Culture, l'électro naturel, Étienne Menu.
Le patron de label et producteur Bunny Lee est présent lors de la soirée et se dit qu'il serait judicieux de fabriquer d'autres dubs instrumentaux des chansons qu'il sort. Il demande donc à un ami et confrère, King Tubby, de faire quelques tests. Celui-ci se met au travail et va bientôt fabriquer des dubs qui proposent mieux que de simples déclinaisons non vocales du titre original. Tubby met en avant les pistes rythmiques, ajoute des effets, accentue les contrastes, comme on l'entend ici sur son dub de Black Stick Rock pour le chanteur Big Joe. Il découvre d'infinies possibilités de modification des couleurs, des contours, des durées. Le dub n'est plus simplement une face B subordonnée à une face A, elle devient un espace à part où l'on peut modeler des formes abstraites. Et c'est dans cet espace qu'il va convier un autre producteur qui, comme lui, va explorer les dimensions secrètes de ce monde mystérieux. C'est, vous l'avez deviné, Lee Scratch Perry.
Welcome to Blackboard Jungle, part 2. Thank you.
King Tubby dévoile à Lee Perry quelques techniques pour faire se déployer les créatures audio endogènes à l'écosystème dub. En 1973, Perry sort avec ses musiciens du groupe The Upsetters l'album Blackboard Jungle qu'il a mixé avec Tubby. C'est là l'un des premiers longs formats jamaïcains, principalement composés de plages instrumentales, où les rares voix flottent ici et là, telles des ombres ou des méduses. Sous l'égide de Tubby, qu'il finira par dépasser en termes de mysticisme sonore, Lee Perry fait surgir à chaque morceau des sons inconnus et achève d'autonomiser le dub comme genre à part entière. Son rapport à la console est totalement fusionnel. Il déclare ainsi « Je me dis que le studio doit être une chose vivante et intelligente. » Le patch, terme qui désigne le savant câblage de ces synthétiseurs modulaires, est selon lui le cerveau. À toi de le préparer pour en faire un être vivant. Et dans le même geste, lui, l'artiste, lui, l'être vivant, veut céder son humanité à son outil. « Vous écoutez une machine, dit-il. J'imite l'être humain. Je suis un être machine. Je ne travaille pas avec des êtres humains. » La bulle psychédélique du dub, aménagée dans son studio, qu'il baptise Black Ark, est donc une sorte de piège à fantômes, mais aussi un attrape-rêve, une paroi où se précipitent les vapeurs d'un monde imaginaire à la fois attirant et terrifiant. Sur les dubs de Lee Scratch Perry, le critique et théoricien Kodwo Eshon écrira « Le dub est un virus, un sort jeté à l'espace pour en faire jaillir des poltergeists, des esprits frappeurs. L'écoplex peut faire ce qu'il veut, renverser les émotions et les énergies. » L'écoplex, c'est cette boîte à écho dont se sert beaucoup le producteur et qui projette autour de la banalité du son réel une aura magique. Une aura insaisissable, mais qui depuis plane un peu partout dans la musique moderne. Sorcellerie machinique jamaïcaine, le dub se propage donc ensuite à travers les ondes sonores du monde entier. Il s'épanouira notamment en Angleterre, où les enfants d'immigrés de l'ancienne colonie britannique y adhéreront en masse, rapidement imités par des musiciens blancs. On peut ainsi parler de Basement 5, groupe de noirs anglais qui jouait du punk positivement hanté par le dub, ou encore d'un autre groupe punk, les Slits, trois jeunes femmes blanches, elles, produites par un anglo-jamaïcain, Denise Bovell, dont nous écoutons ici une version dub radicale, voire radicalisée, de ce qui est au départ une chanson à guitare, Typical Girls. Le dub circule comme les spectres à travers les lieux et le temps. Et encore aujourd'hui, il résonne dans des styles musicaux qui n'ont parfois plus rien à voir avec le reggae. Comme la créature du film The Thing de John Carpenter, il prend possession des corps musicaux sans jamais se laisser lui-même réduire à une enveloppe charnelle.
Typical girls.
L'exploration dub s'est développée en poussant les possibilités des machines vers des territoires ignorés situés loin de leur champ d'action d'origine. Mais avant de les dérégler, King Tubby et Lee Perry maîtrisaient néanmoins très bien leurs studios et leurs appareils au fonctionnement parfois complexe. Or, dans les années 80, la technologie se démocratise et des musiciens beaucoup moins expérimentés ont accès à des outils beaucoup plus maniables, parfois même tellement maniables que ces apprentis compositeurs en tirent des sonorités pas forcément prévues par le mode d'emploi. Cela a été le cas de l'autotune dont nous parlions hier, mais c'est aussi ce qui est arrivé à la TB-303 du fabricant japonais Roland. L'histoire est, comme celle de l'origine du dub, un mythe fondateur de la musique électronique. « Un soir de 1985 à Chicago, trois musiciens amateurs, Spanky, DJ Pierre et Herb J, bricolent des ébauches de morceaux à l'aide d'un synthétiseur, d'une boîte à rythme et d'un petit appareil japonais, la TB-303 de la marque Roland, qu'ils ont acheté d'occasion. Cet instrument, présenté comme un bass generator, avait pour vocation à sa sortie en 1981 de servir d'ersatz de bassiste aux guitaristes qu'ils souhaitaient s'accompagner lorsqu'ils répétaient seuls. Ils proposent donc une palette de sons programmables, tous situés dans les fréquences grave. Mais ce soir, aucun des trois amis n'est là pour jouer de la guitare. Ils sont surtout fans de house, musique dansante et synthétique, alors en pleine explosion à Chicago. Pendant plusieurs heures, ils testent les différentes couleurs de basse proposées par la 303. À mesure que la soirée file, ils en viennent à tourner les boutons un peu dans tous les sens, ce qui n'est pas censé se faire, puisqu'en théorie, les sons ne doivent pas être déréglés en cours de route si le guitariste veut s'exercer correctement. Mais les trois hommes se fichent du règlement et vont alors entendre sortir de la machine des bruits fascinants qui n'ont plus grand-chose à voir avec une basse, même électronique. C'est un son qui oscille entre le gargouillis Android et le frottement d'un torchon mouillé sur une vitre. Un son qui décuple le groove tout en imposant un climat sombre, menaçant. Le trio décide aussitôt de lui associer une rythmique avant d'enregistrer le résultat. Spanky, Herb et Pierre appellent d'abord leur création In Your Mind. C'est une longue plage de 10 minutes où la TB-303 découvre et révèle son côté obscur et parcourt l'espace sans discontinuer. Ils en donnent une copie au DJ Ron Hardy, dont ils fréquentent les soirées au Music Box, pour qu'il le teste sur le dance floor. Au départ, les danseurs réagissent à peine, mais après plusieurs passages, ils semblent envoûtés par le morceau. Le DJ l'a renommé Acid Trax et c'est sous ce titre qu'il deviendra un hit improbable sur le label Trax. Ces potards triturés dans un mélange de hasard et d'inspiration donneront naissance à tout un sous-genre de la house, la acid house, qui fera fureur à Chicago avant de déferler sur l'Angleterre puis l'Europe. Mais le son accidentel de la 303 ne sera pas qu'une mode, il reste encore aujourd'hui un élément omniprésent de la dance music sous des formes plus ou moins abrasives ou plus ou moins funky. Les guitaristes, eux, ne se sont jamais tellement servis de la machine japonaise pour s'accompagner. Et d'ailleurs, si les membres de Future l'avaient acquise de seconde main, c'est qu'elle n'était plus fabriquée depuis 1984. Comme quoi, la vie, parfois, décide à la place des circuits. Ce récit fondateur de la dance music a son pendant britannique. Il s'agit d'un épisode moins célèbre, mais non moins accidentel, raconté par le britannique Matt Annis dans son récent livre Join the Future. Nous sommes en 1988, dans le nord de l'Angleterre, à Bradford, près de Sheffield. Là aussi, il s'agit de trois amis qui tentent de reproduire la musique électronique qui les fait danser dans les raves et les sound systems de leur région. Ils s'appellent David Barr, Ian Park et Patrick Cargill, et leur projet commun porte le nom de Unique 3. Depuis quelques mois, ils ont appris à se servir de machines et produit plusieurs démos qu'ils aimeraient faire écouter à des labels. David Barr, chez qui se déroule la session de travail, possède de très grosses enceintes dites de monitoring, c'est-à-dire conçues non pas pour écouter les disques, mais pour tester le son d'une composition en cours de production. Alors qu'il allume, éteint, branche et débranche ses différents appareils sur l'ampli, sort soudain des baffles un violent Larsen qui vrombit puissamment dans les fréquences basses. On croirait presque que la terre a fait trembler les fondations de la maison et les trois amis sont sous le choc. Bahar est si fasciné par le phénomène qu'il a déclenché sans le vouloir qu'il décide de le reproduire aussitôt pour l'enregistrer avec un micro branché sur sa table de mixage avant de le stocker dans la banque de sons de son sampler. Qui sait, cette basse sismique pourra peut-être un jour être intégrée à un morceau de Unix 3. Arriver plus vite que prévu car quelques semaines plus tard, Unix 3 signe un premier contrat avec un label qui lui donne accès à un studio professionnel. Le jour de la session, David a pris son sampler avec lui et s'empresse donc de jouer le fameux son sur les enceintes. Le résultat est incroyable. Yann Park l'accompagne aussitôt à la boîte à rythme, Patrick Cargill au synthétiseur. Leurs idées se rencontrent vite et bientôt le track surdosé en basse est terminé. La première sortie de Unix 3 s'appellera Theme et l'effet de pression physique exercée par le Larsen est tel qu'il inspirera dans le nord de l'Angleterre là aussi tout un courant de la dance music qu'on appellera Bleep and Bass.
There's something going round inside my head. I think it's something I feel. It's something unreal.
Le Bleep and Bass est donc un style endogène aux agglomérations de Sheffield, Manchester et Leeds. Nous écoutons ici un classique du genre, Aftermath de Nightmares on Wax, sorti sur le label Warp, en 1990. Mais comme il combinait ces énormes basses à la fois industrielles et jamaïcaines aux grooves robotiques de la house et de la techno, le Bleep and Bass a résonné ensuite dans toute l'Angleterre, jusqu'à Londres ou Bristol. Son influence a engendré une lignée de sous-genres évoluant dans les mêmes zones hybrides, le breakbeat hardcore, la jungle et la drum and bass au cours des années 90, puis le dubstep, le grime et le UK garage dont nous parlions hier. Tournant des années 80 et 90, mais cette fois-ci à Houston, au Texas, se fomente une autre révolution musicale qui, elle, s'appuie sur le bricolage extrémiste qu'un jeune homme fait subir à ses platines vinyles. Cet aspirant DJ ne semble vouloir qu'une chose, c'est que ses morceaux préférés ralentissent jusqu'à sembler inertes.
Curse. the product and everybody hates you. That's Uncle Sam's curse. From 9 to 5 on the old plantation in this U.S. nation. That's Uncle Sam's curse.
Robert Earl Davis Jr. commence à se faire connaître à Houston au début des années 90 sous le nom de DJ Screw. Il fabrique chez lui des cassettes qu'il vend de la main à la main. Des cassettes où il mixe des titres de rap de sa ville ou d'ailleurs, mais qu'il a la particularité de ralentir à l'extrême. Un effondrement du tempo et une baisse de fréquence qu'il rend possible grâce à des manipulations qu'il pratique à l'aide d'un tournevis sur le mécanisme de ses platines. En vissant et dévissant, il s'est trouvé le nom de DJ Screw qui en anglais veut dire « vis ». Il mixe, DJ Screw pratique aussi le beat juggling, le passe-passe en français, terme du jargon des DJ qui désigne une opération de jonglage donc entre deux copies d'un même disque. L'effet marécageux du ralentissement est donc redoublé par ces répétitions saccadées des mêmes syllabes qui donnent l'impression que les mots sont hachés, chopped en anglais. Le résultat, c'est ce style appelé chopped and screwed qui, s'il reste bel et bien du rap, perd un peu de la prestance virile qui caractérise normalement le genre. Les voix se distendent, les boîtes à rythme semblent prises au piège d'une épaisse mélasse et l'esprit général tient plus d'une fin de soirée brumeuse ou d'un début de rêve intoxiqué que de la fanfaronnade masculiniste.
Somebody help the lost souls find safety. So stand on the top with a check now for the whole behavior.
DJ Screw a pris l'habitude de ralentir les disques depuis son enfance, d'abord pour s'amuser, en posant sa main sur la platine de sa mère. Mais s'il a ensuite persisté dans cette lubie et qu'il a pu trouver son public à Houston, c'est pour deux raisons liées au contexte local. La première, c'est que Houston est une ville où les gens passent beaucoup de temps dans les embouteillages, dans des voitures à l'époque souvent dépourvues d'air conditionné. Les morceaux lancinants de Screw sonnent donc particulièrement bien dans les habitacles surchauffés de ces véhicules roulant au pas. La seconde raison est moins terre-à-terre et relève d'un phénomène clandestin, la drogue. Ou plutôt, une drogue bien spécifique, le sirop de codéine. Cet antitussif, vendu en pharmacie, est depuis les années 60 très prisé à Houston, notamment dans le milieu de la musique. Il provoque un état cotonneux, un sentiment de bien-être légèrement sédatif, associé à une perception allongée du temps. Et il se trouve donc qu'une partie des gens qui achètent les cassettes de DJ Screw sont adeptes de ce produit qu'ils mélangent à du soda. Dilué, le liquide au départ foncé prend une teinte violacée, ce qui lui vaut le surnom de Purple Drink.
flower. Told you, baby, I'ma knock the gas tank loose. Brake light off the ass, real slow. Sip it, baby. Knock it. Feel this.
Baby, you don't know. Can't be replaced. See, no one else. Let me like you do. That's why I don't mind. Spend my life
bad
with you.
Bad girl on my side,
wanna
baby.
Please you.
Make me know
anywhere
what you
I can.
All my people's lying up to
you. Don't you
I'm
understand?
That's the color of my broadness. Rose is blue, baby.
Au fil des années 90, DJ Screw devient une figure majeure de la scène rap texane. Dans les clubs, il joue ses mélanges engourdis à un public en général lui-même assez hébété par le Seize-Up, l'autre nom de la fameuse boisson codéinée. Outre les rappeurs, le jeune DJ fait parfois subir ses traitements léthargiques à des chanteuses R&B ou soul. Il se passe alors un glissement étonnant puisque ses voix féminines, plus ou moins au perché, se mettent littéralement à muer jusqu'à sonner comme celles de jeunes hommes, moins souvent barytons que ténors, mais tout de même, il y a quelque chose de troublant à entendre des divas comme Mary J. Blige ou Aaliyah, que nous écoutons ici, soudain transportées dans les corps d'hypothétiques frères jumeaux. Dans une scène musicale alors peu connue pour sa gender fluidité, ce type de curiosité mérite en tout cas d'être relevé. DJ Screw meurt prématurément en 2000 à l'âge de 29 ans d'une insuffisance respiratoire probablement causée par ses propres excès de codéine. L'année précédente, la subculture, si propre à Houston, qu'il avait fait émerger, gagnait son premier tube hors du Texas avec l'hymne Sippin' on Some Seize-Up de la 3-6 Mafia, légendaire groupe de Memphis. Et dans les années 2000, le rap américain dans son ensemble sera toujours plus friand de voix ralentie, quoique intégré à des morceaux tournant à des vitesses normales. Le New-Yorkais A$AP Rocky, notamment, s'est souvent réclamé de l'influence de DJ Screw. Quant au Californien Kendrick Lamar, il a lui édité une version chopped and screwed de son album To Pimp Butterfly en 2015. Et parmi les centaines de cassettes que DJ Screw aura sorties en 10 ans de carrière, certaines s'arrachent aujourd'hui pour des fortunes sur Internet. Nous avons jusqu'ici évoqué des détournements de technologie essentiellement analogiques. Le digital, lui, s'est imposé au tournant des années 80 et 90. Côté instrument, il a conquis le marché des synthétiseurs ou des consoles d'enregistrement. Côté support, le compact disc a chassé le vinyle en l'espace de 4 ou 5 ans en se présentant comme un nouveau standard inusable et immaculé. Le CD se glissant dans des lecteurs tout aussi futuristes que lui, l'auditeur ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur, contrairement au tourne-disque d'antan où il pouvait suivre le mouvement de l'aiguille sur le disque. Il sait juste qu'un mystérieux laser est projeté à la surface du plastique et qu'un rendu sonore impeccable sort alors des enceintes. We'll be right back. Au sujet du CD, le philosophe Jean Baudrillard écrit ceci dans le deuxième volume de Memories 1987-1990. Disque compact laser, il ne s'use même pas, même si l'on s'en sert. C'est terrifiant, c'est comme si vous ne vous en étiez jamais servi. C'est donc comme si vous n'existiez pas. Si les objets ne vieillissent plus, c'est que c'est vous qui êtes mort. La technologie musicale à son point de perfection devient une chambre noire. La jouissance musicale devient jouissance posthume. Plus tard, sans doute, on réintroduira des bruits parallèles, des virus, pour donner l'illusion de la vie et de l'usure. En parlant ainsi de parasiter la perfection numérique, Baudrillard décrivait sans le savoir une démarche qui allait beaucoup intéresser la musique électronique expérimentale et qui avait même déjà inspiré au moment même où il notait ses remarques des pièces sonores à un artiste japonais issu de Fluxus, Yasunao Tone. On écoute en ce moment son Solo for Wounded CD, solo pour CD blessé, créé comme son titre l'indique avec un lecteur essayant de lire un CD volontairement rayé. Une démarche de sabotage au résultat peut-être pas forcément très conviviaux, mais qui marque le début d'une longue guerre esthétique entre la soi-disant excellence digitale et les avant-gardes sonores. En 1994 sort Systemisch, l'album d'un trio allemand du nom de Oval. Le groupe avait commencé par faire de la pop électronique, mais il propose désormais une musique entièrement instrumentale, proche de l'ambiante, mais sans cesse ponctuée de ces sons parasites, les glitches, que l'on entend lorsqu'un CD saute, comme on dit, à la lecture. Le cerveau du groupe, Marcus Pop, affirme que tout ce que l'on entend sur cet album vient de compact disques qu'il aurait lui-même rayé ou enrayé en les gribouillant au feutre. Il n'aurait fait, dit-il, qu'agencer les résultats bruts de cette expérience. Lorsqu'on écoute Systemisch et ses si belles miniatures glitchées, on peut suspecter l'allemand d'exagérer un peu, voire de carrément se moquer de nous. On retiendra en tout cas que la démarche d'Oval consiste à exposer les limites de la perfection digitale afin de démontrer les enjeux politiques que cache le discours technophile. Un morceau s'appelle d'ailleurs « The Politics of Digital Audio » et celui que nous écoutons, textuel, sera, quant à lui, ironie de l'histoire, utilisé dans une publicité pour le parfum Acqua di Gio. We'll be right back. Au-delà des seuls dysfonctionnements de lecteurs CD, c'est l'ensemble des glitches, toutes ces erreurs et accidents digitaux qui vont être investis par un contingent d'artistes électroniques autour de l'an 2000. Face à des logiciels de création musicale proposant des possibilités supposément infinies, la résistance s'organise pour faire dérailler le train de l'utopie technocapitaliste. Allemands et Autrichiens sont très actifs sur ce front, entre autres via les labels Mille Plateaux et Mego. Des productions purement bruitistes coexistent avec des travaux où le glitch honore les ruines de mélodies qu'il laisse derrière lui. Une esthétique romantique où s'épanouit le viennois Christian Fenez, dont l'album Endless Summer fera connaître le glitch à un plus large public. Mais justement, au cours des années 2000, le glitch va parfois voir son rôle subversif neutralisé en se retrouvant employé comme une sorte de gadget disruptif. Le groupe Radiohead y aura recours sur les albums Kid A et Amnesiac, et ce goût du faux accident sonore intégrera certains tubes pop, mais aussi la dance music chez des artistes comme Matthew Herbert ou Akouphène. De nouveaux logiciels vont même jusqu'à proposer des fonctions glitch pour donner volontairement un effet dysfonctionnel préprogrammé à une sonorité ou à une phrase musicale. Jadis conçu comme un geste d'émancipation du créateur face à la technologie, le glitch se fait ainsi piéger par le dispositif même qu'il cherchait à renverser.
You are now about to witness the strength of street knowledge.
Mais les militants du glitch n'ont pas dit leur dernier mot. Les Anglais d'Otech, dont nous parlions déjà mardi, intensifient album après album l'opacité formelle de leurs travaux et la critique du software standardisé. Et puis en Californie, l'artiste Miguel Trost Del Pedro, alias Kid 606, cultive lui un glitch plus frontal. Il agit à un hacker musical qui piraterait ses propres logiciels. On l'entend ici empoisonner le tube pourtant farouche de NWA, Straight Outta Compton. Le virus inoculé par Kid 606 à ses outils de travail provoque des malformations numériques obscènes mais jouissives. Ces pathologies offrent aux auditeurs une expérience qui rappelle un peu les fantômes et excroissances du dub de Lee Scratch Perry, désormais adapté à un monde digital, paradoxalement lui-même en voie de dématérialisation. Des esprits qui circulent jusqu'à notre époque, puisqu'aujourd'hui, une nouvelle génération de musiciens et musiciennes poursuivent à leur manière la guerre du glitch. We'll be right back. Les avancées technologiques récentes ont rendu la production de musique électronique plus accessible que jamais, voire peut-être trop accessible, si bien qu'une bonne partie des jeunes compositeurs semblent simplement assembler des éléments prêts à l'usage qu'ils publient ensuite en ligne sur des plateformes comme SoundCloud. Cette musique dématérialisée est surtout trop souvent dévitalisée. Alors, pour remettre du vivant dans ces créations, de jeunes artistes détournent leurs outils, sans forcément chercher à les faire dérailler, mais plutôt pour en tirer des sculptures sonores aberrantes. Empilement de matière, paradoxe rythmique, volume grotesque, le geste chez des musiciens comme Chino Amobi ou One Trick Point Never tient à la fois de la satire et de la négation dialectique. Il sert aussi à faire passer, comme en contrebande, des idiomes musicaux en pleine mutation. La pop, le R&B ou le metal peuvent être ainsi réactivés, mais parfois ce sont même des formes traditionnelles oubliées, comme ici ces rythmiques amérindiennes reprises par Elysia Crampton, une Californienne d'origine bolivienne. Pour terminer cette histoire de fantômes et de dérèglements dans la musique électronique, il fallait absolument parler de Leyland Kirby, alias The Caretaker. Ce Britannique a d'abord été un acteur important de la scène glitch au sein du projet VVM, qui piratait des tubes pour en extraire de petits monstres joyeux. Et puis, son parcours l'a amené à s'intéresser aux fantômes au sens large et à faire partie de ce que certains critiques anglais ont appelé « hauntology », en référence à un néologisme français, anthologie, H-A-N-T-O-L-O-G-I-E, proposé par Jacques Derrida dans son livre « Spectre de Marx ». Le terme, dans sa version anglaise, désigne un ensemble informel d'artistes qui, par leur musique, tentaient de revisiter des lieux ou des expériences disparues, en général propres à l'histoire récente de la Grande-Bretagne. Dans le cas de The Caretaker, cette recherche a pris un tour très intime puisque son travail de mémoire et de dialogue avec les spectres s'est concentré sur la perte progressive des facultés cognitives de son père, atteint de la maladie d'Alzheimer. Les disques publiés par The Caretaker au cours des années 2010 sont les témoignages de cet inexorable effacement des souvenirs puis du réel. Chaque morceau y est un peu plus flou, un peu plus hanté que le précédent, et accompagné d'une description médicale de la phase qu'il illustre dans le processus de dégénérescence causé par Alzheimer. La principale matière première que dégrade Leyland Kirby, c'est la musique de cabaret et de casino qu'aimait son père, et qui se trouve être aussi celle que l'on entend à la fin du film Shining, dans lequel, on s'en souvient, le spectre de Delbert Grady dit au personnage de Jack Nicholson « You've always been the caretaker ». Cette émission a été réalisée par Philippe Baudouin, avec Jean-Guilain Meige à la technique. Un grand merci à Olivier Quintin et à Matt Anis. Demain, le dernier épisode de cette série musicale sera entièrement consacré à Drexia, un groupe mais surtout une utopie afrofuturiste de vie subaquatique. Très bon après-midi à l'écoute des programmes de France Culture.